signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ils ont enrichi par leur génie notre patrimoine, ils sont aussi deux symboles de la diversité, ils durent endurer l'homophobie de leur époque, ils sont les Oscar Wilde français. Voici ce que contient la pétition lancée voilà une dizaine de jours par Jean-Luc Barré et Frédéric Martel, respectivement éditeur et préfacier de la biographie d'Arthur Rimbaud signée Jean-Jacques Lefrère, initialement publiée en 2001 et qui ressort en ce moment dans la collection Bouquins. Aussitôt, cette pétition, lancée à l'occasion de la sortie de ce livre, et qui est fort dans l'air du temps, a regroupé des signatures aussi diverses que celles d'Annie Ernaux, Christine Ockrent, Lynn Renaud, Michel Onfray, Daniel Mendelsohn, sans compter 9 anciens ministres de la Culture, dont Jack Lang et Aurélie Filippetti. Elle a reçu l'aval aussi de l'actuel ministre Roselyne Bachelot. Après le Nobel à Bob Dylan, la sacralisation du poète français de la révolte semblait donc bien partie. C'était compté sans une autre pétition, publiée dans Le Monde dans son édition de ce vendredi. Ce contre-appel dénonce tout à la fois l'académisme politiquement correct et le communautarisme lénifiant de l'appel initial et exhorte le président de la République à ne pas commettre, je cite, cette erreur, pire, cette gaffe, qui consisterait à faire se côtoyer Jean Moulin et deux poètes maudits, dont l'un écrivit tout de même lors de la guerre de 1866 qu'il souhaitait de tout son cœur la victoire de la Prusse, c'est-à-dire Arthur Rimbaud. Qui finit aussi marchand d'armes et d'esclaves en Afrique. Ce second texte donc est signé de noms non moins illustres, tels le poète Adonis, Florence Delay, François Julien, Michel Lebris, Héry de Luca, Éric Marty, Olivier Rollin, Jean Rouault ou encore Alain Boer. Rébellion contre rébellion, qu'est-ce qui est en jeu dans cette querelle patrimoniale où se mêlent l'identité nationale et littéraire du pays, l'identité sexuelle et la vérité supposée de la révolte ? Pour en parler aujourd'hui avec nous, deux des principaux initiateurs des deux pétitions concernées. Alain Boer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes poète, président du Printemps des poètes. Vous avez écrit 12 livres, dont Rimbaud en Abyssinie et De quel amour blessé, réflexion sur la langue française, puisque vous êtes aussi engagé dans la défense de la langue française. Et Frédéric Martel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, journaliste et producteur de Soft Power sur France Culture, sur cette antenne, et vous avez été l'un des premiers signataires de la pétition. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question d'abord à tous les deux. Pourquoi s'énerver sur le Panthéon ? Qui est-ce qui veut répondre à cette question ? En quoi est-ce que c'est important le Panthéon aujourd'hui ? Alain Boer.
Bah écoutez, je ne suis pas concerné par cette démarche que je tiens pour inepte et ridicule. Le Panthéon, d'abord, elle présente une cohérence des valeurs nationales. Et Rimbaud et Verlaine s'opposent radicalement. Je pense que ce soit une très grave erreur symbolique pour la France, une erreur tellement ridicule que le président, je le pense, ne la commettra pas. Et oui. D'abord parce qu'il s'agit d'une blague, de potache, comme son contributeur l'avouait d'ailleurs hier dans la presse en une première marche arrière. Il s'agit d'un canular par lequel il compromet 9 ministres de la République, ce qui montre non seulement son incompétence littéraire, mais son mépris pour la chose publique.
Ah ben ça commence très fort.
Rien ne subsiste de cette sottise à l'examen qui cumule toutes les torts, parce que c'est un contresens rimbaldien.
Alors on va y venir, on va venir au fond du sujet. Hein. Frédéric Martel, pourquoi c'est si important le Panthéon, espace que Monazou définit comme un espace désaffecté où frissonnent 3 touristes de l'Illinois, et Julien Gracq disait à propos de l'Église qu'il s'agissait d'un morceau d'une robe bâtarde à la fois antique et jésuite. Ni De Gaulle, qui a fait beaucoup pour la mythologisation du lieu, ni François Mitterrand, qui a mis en scène son arrivée au pouvoir en 81 au Panthéon, n'ont voulu être enterrés sur place. Pourquoi c'est soudainement important ?
Alors d'abord, juste une petite précision. Tout à l'heure, vous évoquiez Rimbaud marchand d'esclaves.
Oui.
C'est un fait qui est faux, qui a été d'ailleurs démenti par Alain Boer. Donc je crois que sur ça, on sera d'accord.
D'accord.
Il a effectivement vendu des armes, d'ailleurs assez légalement. Mais il n'y a pas d'esclaves. Juste ce petit point était okay. important. Et la phrase que vous citiez, vous la citiez de 1866. À l'époque, Rimbaud avait 13-14 ans. Tout le monde peut dire des choses un peu folles à cet âge-là.
Alain Boer, pardon ?
Non, pas 66, on est en 1870, 71 d'ailleurs, pendant l'occupation prussienne, et en effet, Rimbaud écrit qu'il souhaite fort, non pas la victoire de la Prusse, ça vous confondez, hein, la victoire de Laval, c'est Laval. Non, mais lui, il écrit, mais c'est un adolescent sarcastique qui, pendant l'occupation prussienne, ironise et qui dit « Je souhaite fort que l'Ardenne soit occupée. »
Bref, la date de 1866 avait été dite, donc je corrigeais sur cette date-là, c'est tout. Alors pourquoi le Panthéon? D'abord, le Panthéon, il y a des écrivains que je sache. Jean-Jacques Rousseau, par exemple, il y a été mis par la Révolution française. Je ne crois pas qu'on ait demandé d'abord à Rousseau qui était mort. On n'a pas demandé non plus à ses héritiers parce que c'est un symbole de la France. Et là où il y a un désaccord profond entre nous, c'est qu'il n'a jamais été question d'abord, je le reprécise, de faire entrer le couple Rimbaud-Verlaine. Il a été question de faire rentrer deux libertés ensemble, c'est-à-dire en même temps, comme il y a eu Sieyès et Monge ou d'autres. D'autre part, et c'est le point,
Attendez, Arthur
Rimbaud et Paul Verlaine.
Alain Bauer, pas tout le monde en même temps, je vais laisser finir Frédéric Martel.
D'autre part, le Panthéon, il ne s'agit pas d'institutionnaliser Rimbaud et Verlaine, au contraire, il s'agit de désinstitutionnaliser le Panthéon. Et donc, quand on dit effectivement que c'est quelque chose de pas sérieux, dans le sens où on fait cette pétition, mais de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est relativement, irresponsable au sens premier du terme. C'est ensuite pour engager un débat, et dont le débat était. Et c'était ça notre motivation. C'était un fusil, j'oserais presque dire un revolver à deux coups. Le premier coup, c'était pour faire sortir, et ça a réussi, la pétition d'Alain Bauer, puisque c'est lui qui l'a écrit, parce qu'elle est quasiment exactement la même que ce qui est écrit dans un entretien qu'il a donné il y a quelques jours avant dans La Croix. C'est pour faire sortir une homophobie récurrente dans les études littéraires qui apparaît de manière totalement limpide désormais dans ce texte et dans aussi tout un tas de déclarations qui l'ont accompagné. Moi, je veux bien débattre, et on pourrait le faire, de l'homosexualité de Rimbaud qui est complexe. Le mot d'ailleurs n'existe pas. C'est un complexe, anachronisme à cette époque. Ainsi que de Verlaine. C'est très long à discuter. Mais il est clair que ce qu'on a lu ces derniers jours, je ne dis pas forcément d'ailleurs chez Alain Bauer lui-même, il y a eu beaucoup d'autres gens qui se sont exprimés. Il y a des formules très anti-gays qui ont émergé à ce moment-là. Et je pense que c'était notre objectif de les faire émerger parce que désormais, les études rimbaldiennes vont pouvoir se repositionner sur cette question trop longtemps niée. Cette pétition, c'est la pétition Paterne-Berrichon.
Alors, Alain Bauer, allez-y.
Non, mais bon, alors écoutez, d'abord, c'est une récupération bien pensante, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Et c'est ce qui indigne tous les poètes français contemporains qui sont unanimes monter vent debout contre ça, voyez-vous, quand même, pour que sorte du bois Adonis, Michel de Guy, Jacques Roubaud, Bernard Noël, il se passe quelque chose, comprenez-vous, là, je ne cite que les maréchaux d'Empire, mais il y a aussi tous les poètes québécois, africains, californiens, il y a Denis Podalydès, Éric Lucas, et aussi Florence Delay. Et Patti Smith, oui, mais... qui nous a fait savoir. À côté, depuis New York, elle exècre l'idée de panthéonisation pour Rimbaud. Enfin, Patti Smith.
Oui, mais moi, je l'ai eu aussi.
Attendez, Frédéric Martel.
Moi, j'ai aussi des écrivains, c'est pas le débat.
Frédéric Martel. Ce que j'appelle de panthéonade, où les ministres de la culture abondent, il ne se trouve pas un seul poète, pas un seul rimbaldien, à l'exception, bien sûr, du poète et rimbaldien bien connu, Alain Minc. Ça ne vous dit rien?
Mais c'est absolument faux. D'abord, vous avez énormément de rimbaldiens parce qu'il y a plusieurs courants, comme vous savez, qui se battent parce que c'est quoi?
Du coup, ils sont tous. Il y a une.
Mais c'est pas vrai. Vous savez très bien que je les ai lus. Il suffit de lire la préface. Ils sont tous cités. La question n'est pas là. Vous avez, en l'occurrence, il y a une bataille chez les rimbaldiens depuis Claudel, c'est pas nouveau, entre une tendance, je dirais, catholique, qui est très représentée dans votre pétition, et puis une autre tendance, qui est celle qui est défendue parce qu'il y a énormément d'écrivains. Vous savez, il y a plus de 5000 personnes qui ont signé notre pétition, plus de 2000. C'est l'association des Verlaine et Rimbaud qui ont signé. Il y a 5000 personnes, des rimbaldiens qui ont signé aussi. Donc, je ne nie pas pas qu'il y a des gens qui ont signé votre pétition, ils existent, bien qu'au passage, il y ait certains signataires de votre pétition, je pense à Sylvain Tesson, qui a expliqué qu'il n'avait jamais eu votre pétition, de même que Régis Debray. Donc vous avez fait signer des gens qui n'ont jamais signé la pétition. Donc ce point a été démenti par les deux.
Non, je pas peux... du tout, attendez, alors, là, vraiment, vous utilisez les mauvais arguments, parce que Sylvain Tesson et Régis Debray ont leur façon de penser, mais depuis 25 ans, Régis Debray ne signe rien du tout. Si vous voulez savoir ce qu'il pense, téléphonez-lui.
Mais pourquoi
même Sylvain Tesson. Alors, vraiment, il ne souhaite pas signer quelques
alors,
pétitions.
Pourquoi
Attendez. Parce qu'on va, essayer de dépasser un peu l'anecdote, parce que sinon, vous allez vous écharper pendant toute la durée de l'émission sur qui a signé et qui n'a pas signé.
Non, mais ce point
ça
mérite.
Va, ça va
ce
point
mérite. J'ai un SMS qui est envoyé hier Régis Debray qui dit « Je me découvre signataire d'une pétition de Breuer, je cite Régis Debray, que je n'ai jamais signé. Je n'aime pas ses procédés et je lui fais savoir vertement signer Régis Debray. Il m'a écrit hier parce qu'il figurait sur la pétition que vous diffusiez. » Et c'est la même chose avec Sylvain Tesson. Voilà.
Rien du tout depuis 25 ans. Ne soyez pas de mauvais.
Alors pourquoi vous le faites signer?
Bon, on peut dépasser le cas de Régis Debray une seconde. Pour entrer une seconde dans le vif du sujet, il y a deux arguments quand même, Frédéric Martel, que soulève Alain Borer et la pétition qu'il a lancée. Le premier, c'est quand même celui où vous semblez un peu jouer sur les mots. C'est-à-dire, quand vous dites que votre pétition insiste sur le fait que Verlaine et Rimbaud n'entrent pas en couple, parce qu'ils n'étaient effectivement plus en couple depuis très longtemps, mais qu'ils entreraient en même temps. Il est évident que quand vous les faites entrer tous les deux, on pense au couple. Vous jouez sur les mots.
Oui, mais c'est un choix précis.
D'accord.
Mais non, je joue pas sur les mots, mais joue effectivement sur. C'est-à-dire, Rimbaud et Verlaine, qu'on le veuille ou non, ils sont inévitablement et inexorablement liés dans tous les ouvrages scolaires. Tout le monde parle toujours de Rimbaud et Verlaine. Donc voilà, c'est un élément central. D'autant plus que l'un n'existerait pas sans l'autre. On sait très bien que l'œuvre de Rimbaud a été très largement diffusée grâce à Verlaine. On sait les dialogues qu'il y a eu entre les deux. Et là, sur ça, on sera aussi d'accord avec Alain Borer, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on sera d'accord. Mais si, vous l'aviez vous-même écrit, même si vous considérez que Verlaine compte peu par rapport à Rimbaud, ce qui est un point de vue, c'est pas le mien, mais après tout, je suis plus rimbaldien que je ne suis verlainien, donc je suis prêt à vous entendre.
De ça aussi. Mais discutons aussi de la taille et de l'importance réciproque de l'un et l'autre, parce que Rimbaud est mondialement en tête. Il représente la. Non seulement il y a plusieurs éléments qui font que Rimbaud est mondialement important, parce que dans l'histoire de la poésie, il fait une rupture avec toutes les formes précédentes, mais aussi parce qu'il choisit le réel, et par conséquent. Que sa révolte n'est pas seulement du côté de la poésie. Tandis que Verlaine est un très beau, très bon, merveilleux poète qui n'a aucune invention formelle particulière, alors que Rimbaud a explosé toutes les formes précédentes de la poésie. Ça fait une dimension fantastique parce qu'aux États-Unis, la Beat Generation, eh bien, tous les figures de Rimbaud étaient présentes. Et alors, son importance est fondamentale. C'est pourquoi il est inacceptable de faire entrer Verlaine à côté parce qu'il était en couple avec lui. Attention, vous ne savez même pas combien de temps. Alors, bon, la question principale tient au fait qu'il s'agit d'un couple, contrairement à ce que vous voulez dire, et que c'est l'orientation sexuelle à la place de la poésie.
Mais Alain Borer, une seconde,
Frédéric Martel.
Son vent debout et dans toute la francophonie, il n'y a pas un rimbaldien autorisé qui ne peut affirmer sérieusement que Rimbaud fut seulement homosexuel. Il ne faut pas confondre.
Mais en quoi ça vous gêne qu'il soit homosexuel, Alain Borer? Mais c'est quoi cette homophobie récurrente, répétée?
Alain Borer. Une seconde. Je suis obligé quand même de venir au secours une seconde d'Alain Borer, parce qu'il y a quand même deux choses. Dans la tribune que vous avez publiée sur le site de France Culture, Frédéric Martel, vous dites que les deux arguments principaux de votre pétition pour la panthéonisation sont d'une part l'importance de Verlaine et Rimbaud, l'importance des deux poètes, et leur homosexualité.
Oui,
c'est-à-dire que c'est quand même un problème. C'est-à-dire que vous considérez que leur homosexualité est une catégorie valable pour la panthéonisation. C'est ce que vous écrivez.
Mais non, pas du tout. On dit.
C'est ce que j'ai sous les yeux, c'est votre texte.
Mais non, mais les choses, Marc Weisman, sont très simples. Il se trouve qu'on a deux écrivains, deux des plus grands poètes français, qui étaient aussi homosexuels. Quand Alain Borer écrit dans son interview il y a deux jours de La Croix, laissez-moi finir. Mais c'est vous qui.
N'importe quoi.
Eh bien là, nous avons.
Non seulement on ne peut pas réduire Rimbaud à cette orientation, mais Rimbaud importe d'abord pour sa poésie et pas pour sa
mais c'est ce que je viens de dire.
L'actualité, il est impossible et malhonnête de réduire à une option.
Alors, le problème, c'est que vous êtes d'accord sur ce point tous les deux.
Absolument. Que c'est des poètes qu'on fait entrer.
Que Rimbaud et Verlaine ne sont pas réductibles à
Un essentialisme, à absolument.
Voilà. Mais, Frédéric Martel, quand vous écrivez l'un des arguments principaux de la pétition, c'est l'homosexualité, vous l'essentialisez.
Mais non, parce que il se trouve qu'ils sont aussi homosexuels. Quand on fait rentrer Simone Veil au Panthéon, elle est aussi juive. Quand on fait rentrer Aimé Césaire, il est aussi noir.
Personne ne dit le contraire.
Mais non, eh bien moi non plus.
Par contre, ce n'est pas à ce titre qu'ils entrent.
Non, ils rentrent parce qu'ils sont deux poètes. Et quand Alain Borer écrit dans La Croix il y a trois jours, mais si, c'est ce qu'on écrit. Il n'est pas un chercheur honnête qui affirme que Rimbaud fut homosexuel. Je pense qu'on a là le cœur de ce qu'on voulait faire, montrer l'homophobie dans les milieux rimbaldiens qui ont nié depuis Paterne-Berrichon et depuis Claudel, l'homosexualité de Rimbaud, ce qui est faux.
C'est deux points différents. La négation d'homosexualité de Rimbaud, comme la négation du fait qu'il se droguait, ou la négation de beaucoup de choses, c'est un point, on est tous d'accord là-dessus. Le fait d'arguer de son homosexualité pour en faire un argument de panthéonisation, c'est un autre argument. C'est autre chose. On va faire une petite pause musicale pour calmer les esprits.
Oisive jeunesse à tout asservi, par délicatesse j'ai perdu ma vie. Oh, que le temps vienne où les corps se prennent. Oh, 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 oh. Je me suis dit laisse et qu'on ne te voit et sans la promesse de plus haute joie, que rien ne t'arrête, auguste retraite. Oh, oh, oh. J'ai tant fait patience que jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Jeunesse à tout asservi, par délicatesse j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les corps se prennent. Oh, oh, oh.
Alors, en espérant que Rimbaud lui-même ait un peu calmé les esprits, il y a un élément dont j'aimerais qu'on discute ensemble, c'est pas seulement Rimbaud et Verlaine, c'est aussi le Panthéon. C'est-à-dire que le Panthéon a été érigé sous Louis XV, au moment où la France, en tout cas à la période où la France commençait à perdre son premier empire. Ça a toujours été un monument bancal, d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui est depuis le début... qui va pas dans ce monument. Il est froid, il est presque glauque.
Moi, je suis pas d'accord.
Tout le monde le dit.
Non, je pense qu'il est beau parce que c'est une agrégation, comme le Panthéon romain, d'ailleurs, construit, comme vous savez, à Rome, sur plusieurs étages, notamment sur des choses très anciennes, puis une église, etc. Il a eu différentes fonctions. C'est le temple de la République. C'est cœur de la laïcité. Voilà. Alors, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut le faire évoluer. Je ne comprends pas que des rimbaldiens puissent vouloir figer les choses. Il faut qu'ils s'ouvrent.
Laissez-moi finir parce que vous dites des choses très contradictoires, hein, Frédéric Martel.
Non.
Si, si. Mais dites non, mais quand même. C'est aussi un lieu où les gens ont été, où sont entrés et sortis plusieurs fois. Hein.
Oui, Mirabeau, par exemple.
Mirabeau est le premier à être entré en 1791. On dit un an plus tard, la Convention découvrant que Mirabeau avait trahi, entre guillemets, la Révolution, l'a fait sortir. Il a été remplacé par Marat, qui venait de se faire assassiner, qui lui-même a été ressorti du Panthéon après la chute de Robespierre. Certains figurent au Panthéon et d'autres non. Et puis, avec le temps, il y a une politisation des bâtiments. C'est-à-dire qu'effectivement, le Panthéon est peu à peu, au fil du temps, au XIXe siècle, devenu de gauche, si je puis dire, tandis que les Invalides sont devenus plutôt de droite. Donc il y a un enjeu idéologique. Les Invalides, c'est Napoléon, c'est les guerres napoléoniennes, c'est un certain prestige militaire. Le Panthéon, c'est devenu, surtout après 1885 avec les funérailles de Victor Hugo, c'est devenu le symbole de la République, de la Troisième République, qui a vraiment mis en scène les funérailles de Victor Hugo pour essayer d'instaurer une sorte de culte des vertus civiques. Hein, où Panthéon repose après Hugo, Voltaire, Rousseau, je crois Zola, Jaurès, et bien évidemment Jean Moulin. Donc ça, effectivement...
Mais quelle est la contradiction?
Frédéric Martel, alors elle est dans ce que vous dites, elle n'est pas dans le. Il y a cette idée d'un monument qui défend une certaine forme de laïcité, de république. Et puis Jean Moulin, après-guerre, c'est évidemment De Gaulle et le dépôt des cendres, le fameux discours de Malraux. Je voudrais qu'on l'entende une seconde.
Regarde glisser sous les chaînes nains du Quercy. Avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Alors voilà, il y a deux choses qui sont remarquables dans cet extrait que tout le monde connaît. Hein. L'un, c'est évidemment la solennité et les trémolos dans la voix de Malraux. La baignoire, c'est évidemment la référence à la torture. Et l'autre chose remarquable, c'est que Jean Moulin n'est pas entré au Panthéon. C'est-à-dire que c'est un cénotaphe, le cercueil était vide. Et donc il y a cette idée d'un lieu qui est symbolique, beaucoup plus symbolique que ceux qui sont... La question du récit, la question d'un symbole vide en quelque sorte se pose quand même. Est-ce qu'aujourd'hui la solennité d'un Malraux sonne pas de manière complètement anachronique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde à s'agiter comme ça sur la panthéanisation de deux poètes en 2020, alors que partout on pense à déboulonner des statues, à la Boëri et Frédéric Martel? Alain Bauer peut-être le premier, parce que Frédéric Martel saute sur le micro dès qu'on lui donne la parole, et même avant. Donc Alain Bauer d'abord.
Quand j'entends le discours de Malraux, j'ai des frissons, et il est très beau, il est fantastiquement beau, c'est extrêmement émouvant. Le Panthéon représente une cohérence des valeurs nationales et laïques. Et en effet, on ne peut pas placer à côté de René Cassin et de Jean Moulin des grands poètes, surtout Rimbaud d'ailleurs, qui le refuseraient. Il est sûr que Verlaine, on ne peut pas entrer de force, d'ailleurs en général, des poètes au Panthéon, ou alors à reculons, puisque Verlaine voulait que les canons des communards fussent tournés contre le Panthéon. Voilà, le problème, c'est par exemple, évidemment, j'écarte le mauvais argument prévisible d'homophobie, puisque j'en suis bien loin, mais alors si vous voulez un couple idéal, prenez Cocteau-Marais, c'est un très grand poète, et puis Cocteau-Marais est un merveilleux comédien qui fut un grand combattant de la Légion Leclerc, mais la question c'est que l'on n'entre pas au Panthéon sur une orientation sexuelle ou autre revendication militante de la diversité. Le Panthéon n'a pas une fonction, disons, sociétale, mais une fonction mémorielle.
Alors, pour rebondir là-dessus, Frédéric Martel, il y a une chose que dit Alain Borreur, il parle de la cohérence du Panthéon, et vous avez dit tout à l'heure qu'une des choses que vous visiez avec cette pétition, c'était la désacralisation du Panthéon. Alors, c'est là qu'il me semble y avoir... Là, entre autres,
désinstitutionnalisation.
Désinstitutionnalisation.
Oui, mais c'est pas tout à fait.
Le problème. C'est-à-dire qu'il y a de votre part le désir d'aller vers l'institution en désinstitutionnalisant l'institution.
Alors plusieurs choses. D'abord, ce que pensent Verlaine et Rimbaud, personne ne le sait. Verlaine a voulu rentrer à l'Académie française.
Attendez.
à ne pas être changé de son cimetière. Et
mais il n'a jamais dit ça. Mais il n'a jamais dit ça. Vous inventez complètement.
Alors, attendez,
comme souvent.
Alors attendez, Verlaine, la parole une seconde à Frédéric Martel.
Verlaine a souhaité, c'est écrit, rentrer à l'Académie française. Oui. Il était candidat. Donc déjà, il cherchait un certain nombre d'honneurs à la fin de sa vie. Rimbaud, il y a beaucoup de choses. On peut parler du fait qu'il voulait être exposé. C'était un peu d'ailleurs un gag, mais malgré tout, à l'Expo universelle. Qu'est-ce qu'il aurait voulu après ces années d'Abyssinie et au Yémen, enfin à Aden à l'époque, personne ne le sait. C'était plus le Rimbaud qui avait 18 ans ou qui écrivait. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, nous, il ne s'agissait pas de faire rentrer le corps. Vous savez, le corps de Rimbaud, hélas, plus d'un siècle après, il n'y a sûrement ni les os, il n'y a même plus de la poussière. Oui. Donc c'est un peu comme Aimé Césaire ou comme Geneviève Antonioz de Gaulle qui, effectivement, sont rentrés. Juste, on a pris une poignée de terre sur la terre autour de leur tombeau et on a fait rentrer juste la terre. C'est comme ça que ça se passe.
C'est-à-dire que tout Paris est en train de s'écharper pour deux poignées de terre.
Oui, certes, mais c'est quand même l'entrée, le symbole de Rimbaud et Verlaine avec des plaques, ce qui se fait aujourd'hui généralement. Enfin, pourquoi je dis qu'il faut désinstitutionnaliser le Panthéon? Le Panthéon, quand on regarde de près, il y a un nombre de généraux, personne ne les connaît, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, on n'a pas étudié leur vie, il y a peut-être plein de problèmes, il y a des hommes politiques. Aujourd'hui, le Panthéon doit mieux représenter la France. Il doit y avoir plus de femmes. Pourquoi on dit tout le temps qu'il faut plus qu'il y ait de femmes? C'est parce que justement, on considère qu'il faut aussi qu'il y ait des femmes. Et sans vouloir attenter à la mémoire de personne, il y a un certain nombre de personnes qu'on a fait rentrer parce que c'était des femmes, et c'est une bonne chose. La même chose avec tout un tas de... Le Panthéon doit mieux représenter ce pays. Et c'est ça, il doit sortir d'une institutionnalisation où seulement les généraux ou les grands hommes politiques de la Troisième République devaient entrer. Et c'est là où, me semble-t-il, on est d'une certaine manière d'accord.
Victor Hugo n'est pas général.
Non, mais Victor Hugo, c'est à cause essentiellement de son opposition à Napoléon III et au Second Empire. Et c'est pour ça qu'on le fait entrer. Mais le point principal
Zola. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par institutionnalisation? Parce qu'après tout, les Jaurès, Zola, Victor Hugo sont des gens qui n'étaient pas exactement qui n'étaient pas les représentants les plus absolus de l'institution.
Non, mais c'est aujourd'hui, je pense que le Panthéon, et d'ailleurs les demandes le montrent, il y en a énormément, il n'y a pas que celle de Rimbaud et Verlaine, vous savez, il y a une liste très longue, et il y a, si vous voulez, me semble-t-il, nécessité d'avoir aussi, et c'est là où Rimbaud et Verlaine sont intéressants, justement l'esprit potache, l'esprit zutique, le côté saltimbanque, mendiant, bohème, parce que effectivement, c'est important, me semble-t-il, d'avoir aussi le blasphème que représentait Verlaine et Rimbaud au Panthéon, parce que c'est ça aussi la France. Relisez Michelet, relisez les phrases de Michelet sur Voltaire et sur Rousseau, vous y verrez que c'est cet esprit-là qui naît depuis Rabelais, qui va jusqu'à, pour le coup, Victor Hugo au-delà, qui mérite aussi d'être représenté.
Ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que si vous mettez le blasphème et la révolte au cœur de la représentation, c'est à mon avis, c'est un des problèmes français. On fait immédiatement de la contre-culture et de la culture de la révolte une culture officielle en France.
Et du coup, Rimbaud, c'est devenu le cas.
C'est quand même un problème. C'est-à-dire, du coup, il n'y a plus de place pour une parole qui échappe à l'institution, puisque toute révolte est institutionnelle.
Oui, certes, mais c'est aussi ça, la France. Et Rimbaud, me semble-t-il, on est sur une figure ancienne.
Alain Borère.
J'ai vraiment l'impression d'écouter France Culture, ce que je fais régulièrement.
C'est le cas.
Mais voyez-vous que la poésie n'est pas représentée selon les orientations sexuelles ou autres revendications militantes de la diversité. Hein.
Mais vous revenez sur
Attendez.
Laissez parler Alain
Borère.
Écoutez, ce que je voudrais dire, au moins dans ce chaos, c'est ceci. C'est que si vous voulez représenter votre cause, ce dont je suis respectueux, mais je pense absolument que le Panthéon n'est pas la bonne idée, parce que ce n'est pas le lieu de la diversité, c'est un lieu, tant ou pas, républicain, et où on ne s'occupe pas de la couleur, du sexe, de je ne sais pas quoi, de l'âge. C'est un lieu de fonction mémorielle. Respectez ça. Mais respectez aussi notre donnée fondamentale. Donc pas de communautarisme, ça pour moi, je pense que c'est l'américanisation de la société française, dont on voit la progression chaque jour dans la langue française. la question principale, c'est celle d'Arthur Rimbaud. Hein. Oui. Il faut premièrement détacher de Paul Verlaine sur le plan de la représentation générale, parce que son rôle dans la poésie n'a rien à voir. Il est le premier à faire à inventer deux premiers poèmes en vers libre. Il est le premier à abandonner la poésie tout de suite. C'est des choses fondamentales pour notre modernité. Ça n'a rien à voir avec les bons poètes de son temps, Verlaine, de Théodore de Banville. Mais fondamentalement, la question homosexuelle doit être traitée parce qu'il n'est pas là pour représenter quiconque, et surtout pas la fonction homosexuelle qu'il a en effet pratiquée, mais il faut voir les choses de près quand même. C'est-à-dire que, d'abord, Rimbaud, il y a beaucoup de jeunes femmes dans sa vie.
Ce n'est pas vrai.
Attendez, Frédéric Martel.
Ce n'est pas vrai.
Non, laissez parler à Alain Bauer.
Je vais m'en tenir aux faits toujours, hein, et vous auriez dû consulter auparavant le livre à ce sujet de Jean-Luc Steinmetz, Les femmes de Rimbaud, car il y a plusieurs petites amoureuses en wagon, à l'auberge, à Paris. Il y a des poèmes de 1870 de l'attirance et des fantasmes d'adolescents. Vous voyez le livre de Pierre Loul, Le chagrin d'Arthur chez Imago. Rimbaud a vécu à Aden 6 mois en 84, maritalement, avec une abyssine.
Ce n'est pas
vrai. J'ai trouvé son prénom dans le journal de l'Élysée de Monseigneur Jarosso, elle s'appelait Myriam, et c'est donc une chrétienne des hauts plateaux. Et ce n'est pas vrai non plus, n'est-ce pas, que Rimbaud envisage le mariage en 1890 avec une femme qui consentirait à l'accompagner dans ses errances, et certes qui ne se trouve pas, puisque l'analogie d'ailleurs avec Verlaine, rupture, forcément impossible, c'est la même chose. Verlaine, de son côté, est marié, enfant, et à la fin de sa vie, il vit avec deux femmes. Il publie deux recueils, hombres et femmes, qui sont les deux sommets de la poésie érotique française. Alors, l'interprétation le plus souvent admise actuellement, disons, dans l'histoire de la recherche rimbaudienne, considère que l'homosexualité de l'adolescent Rimbaud fut plutôt, si vous voulez vous rappeler le contexte du Deuxième Empire, comme une transgression associée à la drogue, on peut comprendre, comme ce que Rimbaud appelle l'encrapulement qui était nécessaire à l'entreprise poétique de se faire voyant. Et on peut faire aussi l'hypothèse, du coup, d'une vie de cilice pour une erreur de jeunesse, parce qu'il dit à la fin de sa vie, c'est parce que c'était mal. Le problème qui vous échappe, c'est aussi que la question de l'amour chez Rimbaud ne se comprend pas par la biographie, mais se comprend par la poésie. Rimbaud n'est pas homosexuel, ni comme Verlaine également hétérosexuel, et puis la sexualité est une chose extrêmement secondaire dans cette œuvre de génie. Rimbaud est, je dirais moi, holosexuel. C'est-à-dire qu'il, dans la poésie et pas dans la biographie que vous vendez, il est vrai à cette occasion, puisque c'est une opération de marketing qui ne devrait échapper à personne, dans la poésie, c'est là qu'il y a l'interrogation fondamentale, qui est le fait que Rimbaud recherche, comprenez-vous pas, parce que ça c'est la recherche qui ne se dit que par la poésie, il est sans cesse à la recherche d'une nouveau corps amoureux.
Alors, pour résumer ce que vous dites, une des attaques que vous portez à Frédéric Martel et aux pétitionnaires pour la panthéonisation, là où il y a quand même un point bizarre, parce que vous devriez être d'accord au bout du compte, et vous ne l'êtes pas, et c'est bizarre, Alain Boreur, laissez-moi parler une seconde, c'est que ce que vous reproche Alain Boreur et les anti-panthéons, c'est de faire de l'homosexualité, qui est un des éléments de la vie de Rimbaud, ce que vous dites vous-même dans votre préface, d'ailleurs, Frédéric Martel, dans votre préface à la biographie d'Arthur Rimbaud, vous écrivez en toutes lettres que Rimbaud n'est réductible à rien, et dans votre pétition, vous insistez lourdement sur, je dis lourdement, sciemment, vous faites de l'homosexualité un argument principal de la pétition, et ce que vous reproche Alain Boreur, c'est d'instrumentaliser Rimbaud pour en faire un acte de communication militant.
Mais c'est faux. Alors d'abord, attendez, je vais répondre puisque. Alors d'abord, je rappelle que c'est pas ma pétition. Elle est signée par de très grands écrivains.
Oui, vous êtes en état des initiateurs.
Non, mais j'étais avec d'autres. Voilà. Mais Angelo Rinaldi y était aussi. Annie Ernaux, Daniel Mendelssohn, Olivier Pie, Angelo Rinaldi. Oui, il y a beaucoup d'écrivains aussi des deux côtés. Donc voilà. Et je lis dans cette pétition.
Et aussi Michel Onfray et Louis-Georges Trutin, le fondateur du CRAN.
Oui, d'autres, bien sûr.
Non, mais c'est pas anodin.
Mais Alain Boreur, il faudrait être un petit peu sérieux. Tout ce que vous avez dit sur l'homosexualité est faux, est profondément faux.
Mais si vous pouviez répondre à ma question.
Non, mais pour ça, d'abord, premièrement, on dit regardez les textes. Eh bien, regardons les textes. Relisons, et vous le savez, relisons un cœur sous une soutane. Relisons Vagabond. Vagabond, c'est quoi sinon un couple homosexuel? Le cœur supplicié, Bottom, Ferry, Une saison en enfer, laissez-moi finir, en particulier Vierge folle. Reprenez les textes modestes que sont le loup, les sœurs de charité, qui comprennent les codes homosexuels omniprésents dans l'œuvre. Prenez le sonnet du trou du cul, je vais pas le lire là, ça effraierait tellement que c'est homosexuel. Prenez l'album Zoutique dans son entièreté, les Stupras, prenez Fête Galante, Jeune Goinfre, les Rémembrances du Vieil Idiot. Tous ces textes,
Frédéric
non
Martel.
Mais il y est, il disait, lisez la poésie, elle n'est pas homosexuelle, elle n'est que ça.
Personne ne
elle
dit,
n'est que ça.
Je ne dis pas le contraire, ce que je dis c'est que vous écrivez vous-même.
Le Cabaret Vert, la balise.
Oui, d'accord, il y a d'autres poèmes. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point très important, s'il vous plaît.
Alain Borer,
j'ai dit qu'il fallait...
Alain Borer, je vous ai laissé longuement la parole là, tout à l'heure. Laissez parler...
À la radio, je peux fermer le poste et écouter le poste.
Frédéric Martel, vous avez parlé longuement tout à l'heure là, Alain Borer. Je voudrais donner la parole une seconde à Frédéric Martel. Et je voudrais que Frédéric Martel réponde à ce que je viens de, à la question que je viens de poser.
Que vous avez posé trois fois la même question depuis le début de l'émission.
Parce que vous ne répondez pas.
Mais non, mais parce que il se trouve que Rimbaud et Verlaine étaient à la fois des poètes et homosexuels. Voilà, point.
Oui,
il n'y a pas de raison à débattre plus que ça. Ils rentrent parce qu'ils sont poètes et homosexuels. D'autre part,
c'est une réduction militante absolument inacceptable, absolument contraire à tous les faits.
Mais c'est pas le cas. Alors c'est pas le cas. Pourquoi ? Vous dites il y a des jeunes filles dans son œuvre.
Si vous pouvez ne pas parler en même temps.
Vous dites qu'il y a des jeunes filles dans son œuvre, mais il y en a aussi chez Aragon, il y en a aussi chez Proust. Vous prenez au sérieux l'Albertine de Proust? Vous pensez que François Mauriac et Julien Green étaient chastes comme ils le répétaient dans leur livre? Mais évidemment, Alain Borer, que quand on écrit à sa maman en 1880, on ne parle pas de ses amants en Abyssinie. Vous voulez que je vous lise ce que Rimbaud écrit de la soi-disant femme? Il écrit de cette femme.
S'il vous plaît, laissez répondre Frédéric Martel. Voilà. Je vous donne la parole ensuite.
Alors Alain Borer, Rimbaud écrit, comme vous le savez, à propos de la femme qu'on lui prête. C'est possible. Il n'est pas exclu qu'il n'ait pas eu une femme à ce moment-là. Mais il est aussi possible que c'était simplement quelqu'un qui travaillait chez lui, parce qu'il écrit « J'ai renvoyé cette femme sans rémission. Je lui donnerai quelques thalers, vous savez que c'est des pièces de monnaie locale, et elle partira s'embarquer par le boutre, c'est un type de voilier arabe. J'ai eu assez longtemps cette mascarade devant moi. » C'est ça qu'il écrit à propos de cette femme. Est-ce qu'on écrit ça lorsqu'on vit avec une personne? Mascarade devant moi? Est-ce que c'est pas à nouveau, je pose la question, un code par rapport à toute la vie de Rimbaud, dont on sait qu'après Verlaine, il vit avec Germain Nouveau. On sait qu'il a eu sans doute des relations homosexuelles dans les milieux de Charleville-Mézières. On sait qu'il est entouré d'énormément d'homosexuels à Paris au moment où il y est. Et à Londres, il vit dans un milieu homosexualisé et peut-être même en Abyssinie avec Ilg et peut-être même Jami Wadaï.
Personne donc, ne le nie. Hein.
Mais si, ça a été nié par Alain Borer tout à l'heure, où semble-t-il l'homosexualité, et ça c'est très homophobe, était une erreur de jeunesse. Non, je le cite, il vivait avec des femmes et de ce point de vue, il ne serait pas homosexuel. Et je crois que sur ce point, c'est exactement pour ça qu'on a fait la pétition, moins pour qu'il entre au Panthéon que pour révéler cette homosexualité qui est en l'occurrence refusée,
d'accord,
qui est niée depuis des décennies, depuis en fait Claudel, donc, alors, depuis Paterne-Berrichon.
On est d'accord, l'élément clé, c'est pas qu'il rentre au Panthéon.
Mais non, mais de toute façon, c'est pas nous qui décidons.
Mais c'est pas votre objectif final.
Moi, si c'est le cas et qu'il y a une plaque Rimbaud au Panthéon, j'en serais très content. Et je ne crois pas qu'un seul Rimbaldien, un seul Rimbaldien dans ce pays ne puisse pas être heureux que la France, sous une forme ou une autre, parce que pendant la Troisième République, les profs adoraient Rimbaud. Et c'est un symbole de la laïcité. C'est un symbole de tous les profs. Dans les années 80 encore, les profs, les années Rimbaud, François Mitterrand emploie l'expression changer la vie comme thème de sa campagne. En mai 68, tout le monde utilise les phrases de Rimbaud. C'est Verlaine qu'on utilise pour le débarquement en Normandie, comme vous le savez, la phrase célèbre des sanglots, etc. Tout ça justifie, me semble-t-il, qu'il y ait une plaque en l'honneur de Rimbaud et de Verlaine au Panthéon. Et c'est ça qu'on demande. Par ailleurs, c'est aussi l'occasion de reprendre à zéro les études rimbaldiennes, parce que je pense qu'on a trahi sa pensée, parce que je crois que tout ce qu'a dit Alain Borer nous démontre qu'on a un travail de falsification, de mensonge qui est écrit, où on dit n'importe quoi, on ne sait pas de quoi on parle lorsqu'on parle d'homosexualité, quand on explique que c'est une erreur de jeunesse, qu'il ferait ça par anti-bourgeoisisme. Mais relisez les poèmes, relisez les textes, regardez la vie et la biographie de Lefrère, qui est formidable, qu'Alain Borer déteste et qu'il a attaqué. Pourquoi ? Parce qu'il se fait démontrer raconté et critiqué dans cette biographie par Jean-Jacques Lefrère, comme d'ailleurs deux autres Rimbaldiens qui critiquent cette biographie. Elle est géniale. Tout le monde doit la lire parce que ça raconte vraiment tout ce qu'on sait sur Rimbaud, y compris les incertitudes. Je suis le premier à dire d'abord, mais Rimbaud, il ne vit pas une homosexualité heureuse. Il est très critique vis-à-vis de sa sexualité. Et oui. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est on ne peut pas en faire un porte-drapeau. Je n'ai jamais voulu, n'ai jamais pensé que Rimbaud, mais malgré tout, il mais prend, Rimbaud passe 3 ans en prison parce qu'il est, Verlaine passe 3 ans en prison parce qu'il est homosexuel. Fait, et ça, ça justifie que la République dise c'était une erreur, comme on l'a fait pour Oscar Wilde.
Si vous pouvez, je vais vous donner la parole tout de suite à Alain Borreur. Ça devient plus intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que ce que vous écrivez d'ailleurs, vous l'écrivez dans la préface à la biographie. Vous dites vous-même, vous parlez vous-même des tensions de la parade sauvage de Rimbaud et des tensions et du fait qu'il vivait son homosexualité comme tout le reste d'ailleurs. Tout ce qui faisait Rimbaud était vécu par Rimbaud sur le mode du conflit et de l'irréconciliation.
Et de la critique des autres. Voilà. Y compris des homosexuels, y compris de lui-même.
Et de lui-même. Et c'est un des sens de la fameuse phrase « Je est un autre ». Et c'est précisément, il me semble-t-il, que c'est précisément en le panthéonisant que vous risquez de, surtout sur ces arguments, que vous risquez de réduire la multiplicité rimbaldienne à quelque chose de beaucoup plus sociologiquement étiquetable. Et c'est embarrassant, il me semble.
Non, mais je ne suis pas à entendre cette critique. Mais...
Bah, c'est celle que j'essaie de vous adresser depuis le début de
l'émission. Oui, mais sauf que Rimbaud dépasse de tout ça. Rimbaud, il est irrécupérable. Et donc, de toute façon, le Panthéon lui survivra. Et Rimbaud survivra au Panthéon, ce n'est pas le débat.
Alain Borreur.
Oui, écoutez, manque de chance pour mon contradicteur, c'est que tous les Rimbaldiens sont absolument affligés par son initiative.
Il y en a trois qui ont écrit pour l'instant.
Je vais essayer d'en dire un petit mot, parce que cette entreprise de récupération bien-pensante et séparatiste et communautariste à l'américaine vient d'être révélée clairement par cette émission. J'en suis content parce que on voit la tentative d'instrumentalisation de formes militantes. La question, par exemple, en tout cas, de Rimbaud passe en effet excès, parce que vous m'avez dit une chose très intéressante, puisque vous connaissez la vie homosexuelle de Rimbaud complètement, depuis avant la poésie, pendant et après.
Mais pas plus que vous.
Très intéressant de savoir les amants d'Arthur Rimbaud en Abyssinie. Alors, c'est bien ce que vous avez dit, mais moi, je distingue les faits et les hypothèses.
Mais non.
Les faits. Oui. Bien, mais quand par exemple les 5 ans de prison, c'est pas le mot, c'est pas le nom.
C'est 3 ans. La question, c'est 555 jours.
La question, c'est qu'il n'a pas. Écoutez, il y a quand même une tentative d'homicide, voyez-vous, hein, de la part de Verlaine. Alors, ça va pour la justice belge, ça va en prison dans ce cas. Je suis le premier à avoir été en Abyssinie qu'il y avait aussi certainement dans la charge du juge Ter Stevens à Bruxelles une idée d'homophobie. Je l'ai dit en 1983. Il y avait également une idée de chasser les communards français et de plus parce qu'ils étaient tout simplement français. Alors, toutefois, donc il n'y a pas d'argument là. J'en reviens au fond de la question qui est...
Alain Borreur, on va devoir bientôt arrêter l'émission, donc si vous pouvez finir assez vite, ce serait bien.
D'accord. J'en reviens au fond du sujet qui est que cette biographie que vous vendez à l'occasion, que vous...
Mais tout le monde vend des livres, vous en vendez aussi, André Guyot aussi, d'autres aussi, hein, donc ce n'est pas le débat.
Je ne fais pas une entreprise aussi stupide et sectaire que la vôtre pour promouvoir mon livre, et si vous pouviez lire mon livre...
Mais je n'ai pas écrit de livre.
On va devoir s'arrêter là.
Non, mais écoutez, la platitude de la biographie que vous défendez...
Qui vous a attaqué, c'est pour ça que vous...
qui est celle de la multiplication des expériences chez Rimbaud, et vous voulez panthéoniser la révolte, je dis respecter les poètes, et faites entrer, parce que faire entrer, on ne fait pas entrer Rimbaud au Panthéon, ça serait faire entrer un orage d'avril.
Voilà, on va s'arrêter là sur une citation de Rimbaud qui parle de la multiplicité. À chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Devant plusieurs hommes, je causais tout haut avec un moment d'une de leurs autres vies.
La jambe de Rimbaud, de retour à Marseille, comme un affreux cargo chargé des troncs vermeils, dérive en immondice à travers les égouts. La beauté fut assise un soir sur ce genou,
Horreur à rare Arthur, es-tu la jurée? Horreur à rare Arthur, tu l'as trouvé amère. La beauté.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Betzmann, assistée de Aurélie Masseret, avec à la réalisation Perret Legras et à la technique Jean-Louis Deloncle. Dans un instant, une histoire particulière.
Une saison en enfer foudroie l'Abyssinie. Aux sorcières, aux misères, ouais, nos guerres, voici le temps des assassins que tu sponsorisas. En livrant tous tes flingues au royaume de Shoah. Horreur à rare Arthur, au Bentley, au château. Horreur à rare Arthur, quelle âme Arthur est sans défaut. Les poètes aujourd'hui ont la farce plus tranquille quand ils chantent au profit des derniers d'Anakin. Juste une affaire d'honneur mouillée de quelques larmes, c'est quand même un des leurs qui fournissait les armes. Horreur à rare Arthur, t'es vraiment d'outre-tombe. Horreur à rare Arthur, pas de commission. Horreur à rare Arthur, pas de cresson bleu. Horreur à rare.